Bien, bonjour à tous. Vous le savez, nous sommes dans une série. Dimanche après dimanche, nous parcourons la deuxième lettre de Paul à Timothée. Avant de rentrer dans le texte, il me semble que cette lettre et la situation dans laquelle est Timothée me fait penser à un enseignement que j'ai reçu dans une autre vie, lorsque j'étais à l'armée. Donc c'est vraiment une autre vie qui remonte à il y a très longtemps maintenant, 19 ans déjà, j'arrive pas à y croire. À l'armée, je me souviens, un des enseignements que nous avions reçus, c'était que si jamais nous étions en face d'un groupe d'ennemis, la première personne que nous devions viser dans ce groupe, c'était le plus gradé. Parce que si le responsable est affaibli, ou qu'il est mort, qu'il est blessé, ou qu'il est mort, toute la troupe sera désorganisée et ne saura pas comment répondre parce qu'elle ne recevra pas les ordres. Eh bien, finalement, Timothée était un petit peu dans cette situation. Il est dans le viseur de l'Église, c'est ça qui est assez paradoxal. Il est dans le viseur de l'Église, il est blessé, il est en danger de mort. Et l'apôtre Paul lui écrit pour essayer de le sauver lui, et sa responsabilité, c'est-à-dire son ministère, dans l'Église. Alors, l'apôtre Paul commence, dans le premier chapitre, à lui rappeler l'origine de d'où il vient et qu'est-ce qui lui a été confié, et que c'est bel et bien de la part de Dieu qu'il a été missionné pour être au service dans cette Église d'Éphèse, là où il est en difficulté. Et l'apôtre Paul l'appelle à tenir ferme et à se souvenir de ces choses-là et à rester solidaire de lui qui lui écrit depuis sa prison où lui-même souffre des souffrances qui sont d'une autre nature. Paul est emprisonné, Timothée lui souffre à cause de l'Église. Mais c'est le même combat pour l'Évangile qu'il doit mener. Et Paul l'encourage, lui dit « Tiens ferme ». Et nous avons vu la semaine dernière que Paul utilise l'exemple d'Onésiphore, un des frères que Timothée connaissait également, et il lui cite comment Onésiphore a fait des sacrifices pour montrer son soutien à Paul. Et Timothée est entre deux. Paul a peur que Timothée tombe et abandonne. Et il fait tout pour l'encourager à persévérer dans la voie et dans le ministère qui lui a été donné. Et donc nous allons commencer ce matin, le début du chapitre 2, les premiers versets. Et vous allez voir la pensée de Paul dans ces quelques versets, ces sept premiers versets, peut se résumer ainsi. Sans la grâce, pas de croissance. Sans la grâce, dans ta vie, Timothée, pas de croissance pour toi. Dans la grâce, sans la grâce, dans l'Église, pas de croissance. Et il n'y a pas de croissance sans souffrance. La souffrance est inévitable. Et il en a parlé, il en parlera encore dimanche prochain, au travers de la prochaine prédication, au travers de son propre exemple. À lui, la souffrance est inévitable pour celles et ceux qui veulent servir Dieu, et en particulier, bien sûr, pour quelqu'un comme Timothée et pour tous les responsables. Alors, je vais lire le texte, les sept premiers versets, et vous allez voir les quatre grandes recommandations qu'adresse Paul dans ce texte à Timothée. Lisons donc, c'est à la page 783. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends bien ce que je dis. Je m'arrête là. Quand on entend quelqu'un qui nous dit « comprends bien ce que je dis », il faut chercher à bien comprendre ce qui nous est dit, n'est-ce pas? Donc Paul met un coup de stabilo en disant « Il faut bien que tu saisisses ce que je te dis. » Et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Quatre recommandations de l'apôtre Paul vis-à-vis de Timothée, alors qu'il vient jusqu'à présent de le réconforter il va lui donner une première recommandation là, qui est un petit peu comme un chapeau de tout ce qu'il a dit précédemment à Timothée et des recommandations qu'il lui fait. La première est celle-ci, donc cette recommandation de se fortifier dans la grâce. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Quand nous pensons à la grâce, comme nous venons de le faire, quand nous chantons la grâce, quand nous nous la rappelons et que nous prions, nous pensons à juste titre de cette faveur imméritée de la place de Dieu, qui au lieu de nous traiter comme nous le méritons, nous traite par amour au nom de ce que Christ a fait à l'inverse. Dieu nous bénit alors que nous méritons la malédiction. Dieu nous sauve alors que nous ne le méritons pas. C'est la grâce. Mais Paul ici parle d'une autre facette de la grâce. Il parle de cette grâce de Dieu qui est une force permanente qui agit en nous. Puise tes forces dans la grâce. La grâce de Dieu est une force qui agit en permanence en nous. Dieu lui-même a exercé sa puissance pour venir nous arracher au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, et nous l'avons vu au travers du texte de Colossiens que nous a présenté tout à l'heure Jonathan. Dieu lui-même, par sa grâce, nous a arrachés à exercer sa force en Jésus-Christ pour nous transférer dans son royaume. Eh bien, Dieu lui-même est celui encore qui donne les forces à Timothée pour qu'il puisse être capable de plaire à Dieu. C'est Dieu lui-même, dans sa grâce, qui donne les forces à Timothée pour être capable de tenir ferme dans son ministère. C'est Dieu lui-même, dans sa grâce, qui va donner les forces à Timothée d'être rassuré, d'être restauré et de persévérer dans son ministère. Timothée, face aux multiples attaques qu'il avait reçues, face aux échecs qu'il a peut-être rencontrés, face à l'opposition à laquelle il faisait face dans l'Église, avait cessé de compter sur cette grâce, avait cessé de croire en la puissance de l'Évangile. L'Évangile qu'il devait prêcher, qu'il devait enseigner à l'Église, lui-même ne le vivait plus et ne se l'appropriait plus. Et Paul lui dit, puise tes forces dans la grâce. Parce que lorsque l'on compte sur ses forces, tant que tout va, ça va. Mais face aux oppositions, face aux rejets, face aux moqueries, face aux épreuves dans le ministère, eh bien, Timothée n'était plus capable de tenir. Et finalement, je me dis, mais quelle bénédiction pour Timothée de traverser ces étapes difficiles. Parce que c'est l'occasion pour Paul de lui rappeler un élément essentiel, la grâce, se fortifier dans cette grâce. Sans la grâce, pas de croissance. Et où Timothée va-t-il pouvoir puiser et trouver cette grâce ? Paul lui dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans tant de prières par jour, qui est dans tant de chapitres lits dans la Bible. Non, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ, dans la personne de Jésus, que Timothée va pouvoir trouver cette grâce. La puissance de la grâce va agir en Timothée, alors qu'il se mettra à croire que c'est Jésus seul qui peut la donner de façon surnaturelle et qui veut la lui donner. Pas en ses pratiques, pas en ses compétences, pas en ses forces, à son caractère, mais Christ seul agissant dans sa vie. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Voici comment Paul veut libérer Timothée. Jésus seul a la puissance de le sauver. Jésus seul a la puissance de le transformer et de le fortifier. Et alors que Timothée placera à nouveau sa foi en Jésus seul, en abandonnant de compter sur ses forces ou sur une stratégie quelconque pour se sortir des pièges dans lesquels il est, Christ travaillera en lui pour le restaurer. Paul lui-même a démontré, et il le démontrera plus tard dans la lettre, comment il s'est fortifié et a compté sur la grâce de Christ, qu'il a trouvé en Christ, pour se sortir des différents pièges dans son ministère et pour grandir et persévérer. Timothée doit faire une rééducation spirituelle et réapprendre à, non pas à compter sur lui, mais sur Christ dans les efforts. Et voici ce qui est merveilleux pour nous. c'est quand nous désirons voir la grâce plus que toute autre chose agir dans nos vies. Quand nous admettons que ce n'est pas par nos forces, par nos compétences, par tout ce qui est en nous, que alors la grâce agit en nous et travaille en nous. C'est quand nous nous abandonnons à cette grâce-là, à cette personne qui est Jésus-Christ, pour qu'elle travaille en nous, que les changements commencent à se produire. C'est la vraie pour la conversion, c'est s'abandonner, plier les genoux devant Christ et lui dire « Je ne peux pas me sauver, tu dois me sauver ». Et c'est vrai pour toute la vie chrétienne. C'est Tim Keller qui a cette expression qui dit que l'évangile n'est pas l'ABC de la vie chrétienne, mais l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas d'abord l'évangile et puis des pratiques spirituelles, des pratiques religieuses. C'est l'évangile, c'est Christ qui est l'auteur de notre foi et celui qui l'a conduit à sa perfection. Nous lisons dans le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Et comment Timothée va pouvoir-t-il laisser agir cette grâce? Eh bien, cette grâce, si elle est la nourriture qui va le fortifier, où est le frigo? Où est le frigo qui contient cette nourriture? Eh bien, c'est au travers des recommandations de l'apôtre Paul, c'est au travers de ce que Paul lui écrit, que Timothée lui-même reçoit cette bénédiction-là et peut être transformé. Et comme Timothée, nous connaissons tous des échecs, des situations qui nous font dire encore et encore, je n'ai pas tenu ferme. Encore et encore, après tant de promesses, j'ai encore trahi mon Seigneur. Et jusqu'à quand? Et encore, on se pose ces questions et on se dit peut-être au final, à quoi bon maintenant faire un quelconque effort? Je n'y arriverai pas. Et c'est là que les paroles de l'apôtre Paul disent, puise tes forces dans la grâce. C'est dans la grâce qui nous est manifestée, qui nous est accordée, la grâce libre de Christ, celle qu'il désire plus que tout accorder à celles et ceux qui, comme Timothée, sont affaiblis, veulent abandonner. C'est à eux que cette grâce s'adresse. Islandbert appelle le type de pensée un petit peu nombriliste que nous pouvons avoir, où nous pensons sans cesse à nous, à nos incapacités, à nos faiblesses, etc. Toutes ces pensées qui sont des punitions mentales et qui ne portent aucun fruit. Mais les Écritures, elles, nous poussent à tourner les regards vers Christ pour être transformés. Ce n'est pas par une introspection maladive en nous-mêmes que nous changeons, pas par des auto-punitions que nous affligeons, mais en tournant les regards vers Jésus-Christ, que sa grâce nous transforme et qu'alors nous trouverons les forces pour produire des fruits dignes d'une réelle repentance qui sera à la gloire de Dieu. La grâce de Jésus est une source intarissable. Et Timothée doit réapprendre que sans la grâce, pas de croissance. Cette première recommandation de Paul est indispensable pour la survie de Timothée, c'est vrai, mais également elle est fondatrice pour la poursuite de sa responsabilité, de son ministère dans cette église d'Éphèse. Timothée ne doit pas juste survivre, mais il doit faire grandir cette église, participer à la préparer au retour du Seigneur et à la croissance et la maturité de ses membres. Et comment pourra-t-il transmettre cet évangile si lui-même ne le vit pas? Le responsable dans l'église n'est pas quelqu'un qui est un prestataire de service et qui dit « croyez en ceci ou en cela » et si lui-même ne le vit pas. Timothée doit d'abord vivre l'évangile pour ensuite le transmettre. Et ce n'est pas anodin si Paul enchaîne ce commandement, cette première recommandation de se fortifier dans l'Évangile, et ensuite lui rappelle au verset 2, « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Quel programme pour Timothée, lui qui est tenté d'abandonner, Paul lui dit « Tu dois faire fructifier ». Toi qui es tombé d'arrêter, au contraire, tu dois tout faire pour continuer et faire grandir. Timothée, comme je vous le disais, en tant que responsable dans l'Église, s'est vu confier le ministère de l'Évangile, c'est-à-dire de la part de l'apôtre Paul, la responsabilité d'expliquer, de poser les bases, d'expliquer ce qu'est l'Évangile, ce qu'il n'est pas. Paul lui-même avait formé Timothée et Timothée avait ce rôle-là ensuite de transmettre à des générations futures ce qu'elle est ce message-là. Et Timothée doit l'enseigner, mais Paul lui dit que maintenant, en plus de ce qu'il lui a déjà dit de l'enseigner, c'est qu'il doit transmettre la responsabilité à d'autres. Confier selon le modèle qu'il a reçu de l'apôtre Paul, qu'il lui-même a reçu de Jésus-Christ, Jésus-Christ, Paul, Timothée. Pourquoi doit-il le faire? Et là encore, c'est très important pour nous d'être bien dans le contexte de cette période historique qui est unique, qui est charnière dans l'histoire de l'Église. L'apôtre Paul est en prison, il est à la fin. Au moins Jacques, Pierre, Philippe, trois des autres apôtres sont morts en tant que martyrs pour l'Évangile. Et les apôtres étaient les hommes qui avaient la responsabilité après Jésus, les témoins du ministère de Jésus et ceux à qui Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a confié cette responsabilité de poser les fondements, les fondations, et l'Église se construirait de génération en génération sur ces fondements-là jusqu'à son retour. Les apôtres sont en train de se faire décimer les uns après les autres. Paul lui-même voit la plupart de ses compagnons, de ceux qu'il a formés, l'abandonner. Si Timothée l'abandonne aussi, c'est l'Église entière, c'est la mission que Dieu a confiée à l'Église jusqu'à son retour qui est en danger. Paul a une préoccupation qui dépasse celle juste de Timothée en parlant de ses générations à venir. On voit que Paul se projette dans la poursuite et la stabilité de l'Église et sa fidélité de génération en génération au même évangile que celui qu'il a prêché. Et si 2000 ans plus tard, nous pouvons, nous, revenir aux Écritures et enseigner cela, c'est parce qu'il y a eu des générations et des générations qui se sont succédées pour que cet évangile-là, les Écritures, soient transmises de génération en génération. Ce que nous voyons avec la situation de Timothée, c'est que l'Église n'est toujours qu'à une génération de son extinction. Toujours. Parce que si l'Évangile n'est pas transmis et conservé fidèlement, eh bien l'Église s'en écartera et sera retranchée. Celles et ceux à qui est confiée la responsabilité de l'enseignement de la parole de Dieu dans l'Église ont une responsabilité importante, parce que l'Église n'existe pas grâce à eux, certainement pas. L'Église existe et elle tire sa maturité, sa croissance de l'Évangile seul. Et c'est pour cela que Paul dit qu'il faut qu'il y ait des témoins de génération en génération de cet Évangile et qu'il s'assure que l'Église y reste fidèle. Parce que Paul le disait aussi dans la première lettre qu'il avait déjà écrite à Timothée pour lui donner sa mission dans l'Église d'Éphèse. C'était que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité, celle qui tient au l'Évangile. Alors à qui doit être confiée cette responsabilité? L'apôtre Paul mentionne quatre générations, hein, on le voit dans le texte. Il y a Paul, il y a quatre... Paul, ça commence par Paul. Ça va à Timothée, ça va à une génération qui la transmet à une autre génération. Et Timothée est responsable de la transmission du modèle reçu par Paul et de la fidélité à cette génération suivante. Et deux qualificatifs sont retenus ici pour savoir à qui ils doivent être confiés. Et si le mot « ancien pasteur, évêque » n'est pas mentionné dans ce texte-là, c'est à eux que Paul pense. Il ne dit pas qu'il faut enseigner l'Évangile simplement à des personnes qui sont fidèles et capables. Non, l'Évangile doit être annoncé à tout le monde. Mais là, Paul parle de confier la responsabilité de l'annonce de l'Évangile, de la prédication de l'Évangile, à des hommes qui sont fidèles et capables. Les deux qualificatifs qui ressortent dans tous les textes que nous avons à propos des responsables de l'Église. Fidèles à l'Évangile, c'est-à-dire qui ont une intégrité spirituelle devant Dieu, qui ne font pas simplement que parler de l'Évangile aux autres, mais qui le vivent, qui sont d'une exemplarité morale, mais qui ont aussi la capacité de le comprendre, d'articuler les vérités bibliques la pédagogie pour l'enseigner à d'autres, afin que cette génération à venir, d'autres anciens, puissent la transmettre à d'autres anciens, à d'autres, etc., etc. Paul est en train, simplement, en une phrase, de donner le programme de leadership de toute l'histoire de l'Église. Il y a un dicton assez connu que je trouve vraiment sage, qui rappelle que le poisson pourrit toujours par la tête. Vous avez probablement entendu ce dicton-là. Quand les leaders ne sont pas intègres face à Dieu, c'est toute l'Église qui en pâtit. Quand les responsables de l'Église ne sont pas fidèles, ils entraînent dans l'infidélité toute l'Église avec eux. Et la transmission à la prochaine génération est une phase cruciale pour Timothée. Et il est affaibli. Paul se fait vraiment du souci pour lui. Et donc c'est pour ça qu'il lui rappelle quelle est sa mission. Quand on pense à la responsabilité pastorale, c'est-à-dire la responsabilité des anciens dans l'Église, je constate, ce n'est pas pour notre Église, mais d'une manière générale, à travers des différentes interventions et des collaborations que j'ai droite à gauche, c'est que nous avons fait du rôle des anciens un rôle de spécialiste. Ce sont des médecins des âmes affaiblies. Ils sont là pour faire ce qu'on appelle le soin pastoral et ils s'occupent des gens qui sont affaiblis et ils ne font que ça et ils sont submergés par le travail. C'est vrai, les anciens doivent prendre soin du troupeau, ils sont des bergers du troupeau de l'église locale dont ils ont la charge. Ils doivent prendre soin, mais ils doivent prendre soin également de l'église en s'assurant qu'ils transmettent à une future génération la responsabilité pour s'assurer de la continuité de l'Église. Ce sont des formateurs, et le fruit de leur service peut s'évaluer également au nombre de serviteurs, de nouveaux responsables dans l'Église, qu'ils formeront et qui se lèveront à leur suite. La question de l'autorité dans notre monde est une question qui est très sensible. La question du pouvoir est quelque chose de très, très sensible. Nous vivons tous au quotidien sous l'autorité d'un patron, sous l'autorité d'un État, où nous exerçons une autorité et des responsabilités sur d'autres personnes. Et notre monde souffre au quotidien de personnes qui utilisent leurs responsabilités ou leurs titres pour dominer et pour asservir. Et la pensée biblique est complètement à l'opposé de cela. Ceux qui sont responsables dans l'Église ne sont pas là pour avoir une prestance, pour avoir un statut et avoir un faire-valoir. Ils sont là pour servir, équiper l'Église pour qu'elle puisse plaire au Seigneur et grandir. Et Jésus lui-même disait ceci pour dire à quel point le leadership spirituel est, selon lui, est complètement différent de celui selon les valeurs de ce monde. Il dit, vous savez, Jésus disait ça aux apôtres en Marc 10, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Tous les responsables de l'Église, de génération en génération, doivent calquer leur modèle sur celui du Christ serviteur, qui lui-même, si on pense à simplement la thématique là que nous avons du leadership, s'est investi dans la vie de 12 gars chez qui personne n'aurait rien misé, et a passé 3 ans à leur transmettre tout ce qu'il leur fallait, à les équiper pour qu'ils puissent prendre la relève. Et cette relève dit maintenant à Timothée, il faut que tu fasses pareil avec d'autres. Troisième recommandation que Paul donne à Timothée, accepter l'inévitable souffrance du ministère. Souffre. Voici le premier mot de la phrase. Souffre. Quand nous souffrons, nous doutons. Suis-je bien dans la volonté de Dieu ? Suis-je bien à ma place ? Est-ce que je fais ce que Dieu m'a demandé ? Et Timothée, de toute évidence, souffrait énormément. Il était vraiment abattu. Et on pourrait dire que Paul pourrait lui faire un programme en disant « T'inquiète, ça va passer, c'est qu'une période. Tiens bon, tu sais, voilà, aie de l'espoir, tout ira mieux. Tu sais, Dieu est bon, il veut que notre bonheur. » Non, Paul lui dit « Souffre avec moi. » Parce que Timothée doit intégrer que finalement, la souffrance est normale. Et c'est libérateur quand on intègre cette réalité-là. Il n'y a pas de croissance sans souffrance. Et c'est pour ça que Timothée doit persévérer. La souffrance est inhérente au service, et encore plus particulièrement au service du leader. Je me souviens, lorsque je faisais mes études de théologie, un des profs nous avait dit « Vous voulez servir ? Vous allez souffrir. Voilà ce qui vous est promis, ça c'est sûr. Vous voulez servir ? Votre épouse souffrira avec vous, et vos enfants souffriront. Voilà ce qui vous est promis, ça c'est sûr. Mais la grâce ne vous lâchera jamais, Christ sera toujours avec vous. Mais préparez-vous à souffrir. Pourquoi ? Parce que comme je le disais en introduction, celui qui est responsable comme Timothée est devant, et le premier qui est visé, et quand on est en responsabilité, on doit non seulement essuyer les attaques des autres, on fait un petit peu paratonnerre, mais également être confronté à la difficulté réelle de ce que vivent les frères et sœurs de l'Église, à la réalité de ce monde qui est perdu, des personnes qui sont en recherche, et les accompagner, et plonger avec ces personnes dans leur souffrance, les rejoindre, les accompagner, les édifier aussi longtemps que c'est nécessaire. Et on multiplie encore et encore les occasions qui peuvent user, fatiguer. Et c'est pour ça que Timothée doit puiser ses forces dans la grâce. Contrairement à beaucoup de religions, la Bible ne fait pas de l'esprit de sacrifice une valeur en elle-même. Il n'y a aucune valeur dans le sacrifice. La valeur est dans l'amour. Jésus a accepté de nous sauver, non pas par esprit de sacrifice, mais à cause de son grand amour pour nous. Et à cause de l'amour, nous estimons, Jésus-Christ a estimé que les autres, son peuple, étaient plus importants que lui-même. Alors il a renoncé à tout, il a tout sacrifié pour aller jusqu'à endurer la mort de la croix. Et c'est ce modèle-là, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, dit l'apôtre Paul, que nous sommes appelé à imiter. Christ a accepté les souffrances. Timothée doit apprendre à les accepter aussi. Pourquoi ? Parce que c'est à cause de Jésus-Christ. Et avec qui ? Paul dit « avec moi ». Et je trouve ça merveilleux parce qu'il y a un appel à la solidarité. Souffrons ensemble. Et c'est quelque chose qui doit se manifester dans l'Église. Et parfois, c'est étonnant de voir des personnes qui vont commenter la vie et l'activité de tel ou tel responsable en disant « Oh, c'est extraordinaire, tout ce qu'il fait pour l'Église, ce qu'il sert, etc. » Il sacrifie beaucoup. Hein. Que Dieu lui vienne en aide. Et voilà. Mais nous avons un appel à souffrir ensemble, à porter ensemble les responsabilités qui nous sont données, à porter ensemble le service ce à quoi nous sommes appelés. « Souffre avec moi », lui dit l'apôtre Paul. Et puis pour enfoncer le clou, il va lui communiquer des valeurs qu'il va devoir développer dans la souffrance en utilisant trois images. Celle du soldat qu'il va poursuivre, celle de l'athlète et celle du cultivateur. Ces trois personnes, le soldat, l'athlète et le cultivateur, ont en commun que leur travail est dur et qu'il les fait souffrir. Ces trois valeurs-là sont la consécration, le dévouement, plutôt, l'intégrité et la persévérance. Le soldat d'abord, par cette image, Paul souligne quelque chose qui est merveilleux et dont nous n'avons plus trop connaissance à notre époque, parce que nous ne sommes plus sous l'Empire romain. Mais l'image du soldat est très belle, parce qu'à l'époque, les soldats, les armées, ne s'engageaient pas pour Rome. Ils s'engageaient pour un général qui les recrutait et qui leur promettait des récompenses en cas de victoire. Et même en temps de paix, les soldats devaient mettre leur vie en pause, n'avaient pas droit, par exemple, d'aller se marier ou de quitter l'armée. Ils appartenaient au général jusqu'à ce qu'il, lui, les libère. Et donc leur vie était complètement consacrée et ils ne s'embarrassaient pas des choses de la vie, comme le dit l'apôtre Paul à Timothée, pour plaire au général et être disposés pour le service. Des choses qui étaient légitimes et bonnes pour eux, ils y renonçaient pour plaire à leur général et être prêts à le service. Priorité numéro un dans leur vie. Nous parlons de Jésus comme étant celui qui est venu nous sauver, celui qui est venu donner du sens à notre vie. C'est vrai, mais Jésus n'est pas simplement venu combler un vide. Il est venu régner sur notre vie. Il nous a placés sous son autorité. Nous étions dominés par le péché, maintenant nous lui appartenons. Il établit sa domination sur la vie de son peuple. Il est le roi. Il est le général. Et Paul encourage Timothée à se dévouer complètement à son général et à être prêt à souffrir pour lui plaire. Nous voyons parfois le service comme quelque chose de tout à fait volontaire, mais là où la souffrance commence, le service s'arrête. Je suis disponible pour rendre service pour telle ou telle chose dans l'Église, mais si ça nous coûte sur notre temps libre, nos loisirs, des choses bonnes et légitimes, sommes-nous prêts au sacrifice parce que nous aimons quelque chose ou quelqu'un qui est plus grand que nos loisirs, plus grand que notre temps libre? C'est Jésus-Christ. Ce sont nos frères et sœurs. Voici l'appel de Paul. Sois dévoué dans ton ministère. Voilà une des valeurs que tu dois développer. La deuxième est celle de l'intégrité, avec l'image de l'athlète qui est merveilleuse. Et je trouve la sagesse de la parole de Dieu extraordinaire, parce qu'un soldat, un athlète, un agriculteur, il y en aura toujours. Nous ferons toujours du sport, nous aurons toujours besoin d'être nourris, et il y aura toujours des guerres. Et l'athlète, Paul utilise cette image-là pour rappeler l'intégrité à laquelle doit viser l'athlète. Pour avoir du succès, il doit résister à la transgression des règles, sinon c'est un faux succès, et il n'a pas obéi aux règles, c'est de la triche. Et Paul rappelle à Timothée l'importance de l'intégrité. Et je crois qu'il ne faudrait pas passer trop vite sur ce rappel-là, parce que, en plus, dans une situation compliquée pour Timothée, la triche doit être une tentation immense. Tricher vis-à-vis du message, arrondir les angles du scandale de l'Évangile, arrondir les angles dans la prédication, dans la confrontation, quand on doit répondre aux questions des gens. L'intégrité aussi vis-à-vis de l'Église. Ne pas user de stratagèmes ou de manipulations pour gagner les gens à sa cause ou pour diviser, désunir l'Église. L'intégrité pour aller confronter celles et ceux qui veulent écarter l'Église, consciemment ou inconsciemment, de l'Évangile. Confronter ceux qui légitiment le péché dans leur vie, etc., etc. Ça demande beaucoup de courage et d'intégrité. Pour avoir la paix, la tentation serait de laisser passer des choses sous silence. Mais Timothée devra avoir l'intégrité de courir la course qui lui est proposée dans son ministère en suivant les règles. Et enfin, la dernière valeur, c'est celle du cultivateur. Une valeur que je comprends très bien, parce que pour la première fois dans ma vie, depuis un an, j'ai un potager qui fait 1 mètre carré. Et nous avons fait pousser 4 pauvres pieds de tomates. Je sais que c'est dur d'être cultivateur. Paul met en valeur le lien ici entre la peine consentie pour le travail et le fruit escompté. Le cultivateur peine et persévère avec constance avant de pouvoir récolter les fruits de son travail. Même s'il fait tout correctement et dans la difficulté, il faudra du temps pour qu'il puisse récolter. Et avant que le ministère de Timothée, avant que n'importe quelle responsabilité, que n'importe quel engagement que nous voulons prendre dans l'Église porte du fruit, il faudra du temps et de la peine. Accepter ce facteur temps et cette persévérance est indispensable. Et c'est trop fréquent de voir des personnes qui veulent se lever, qui veulent servir, et passer la première épreuve ou la première difficulté, ou qui disent « bon, je laisse tomber, c'est pas pour moi ». Paul dit « Timothée, tu ne dois pas faire ça, tu dois persévérer comme persévère le cultivateur. » Timothée devra prêcher encore et encore et encore et encore le même message pour qu'il porte du fruit dans la vie de l'Église. Il devra multiplier les discussions, les entretiens, les encouragements pour que les gens changent progressivement. Il devra s'investir avec persévérance pendant des années dans la vie de leaders émergents dans l'Église avant que ces hommes-là puissent vraiment porter du fruit et être capables de prendre la responsabilité. C'est un travail de longue haleine. Certains commentateurs voient dans cette phrase, cette image du cultivateur aussi, un écho que Paul utilise souvent et que la Bible utilise souvent vis-à-vis de la fin des temps, vis-à-vis de la nouvelle création, en disant que la récolte finale, de la vendange finale du ministère, des efforts, ça sera dans la vie éternelle. Mais ici, pour le moment, c'est d'abord des efforts à multiplier encore et encore. Ce qui est sûr, c'est que nous trouvons nulle part dans les Écritures qu'il est dit que prendre des responsabilités dans l'Église, s'engager dans le service, est là pour notre épanouissement personnel ou pour se faire une place. Un vrai service selon les valeurs de l'Évangile, au service de l'Évangile, est quelque chose qui use. C'est une réalité que Timothée doit se rappeler. Mais la grâce qui est en Jésus-Christ lui donnera les forces. Et c'est pour ça que Paul conclut avec cet appel à la méditation. Comprends ce que je te dis. Comprends ce que je te dis. Et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Sans grâce, pas de croissance. Sans grâce, pas de croissance, sans souffrance. Voici ce que Paul, en substance, a voulu transmettre à Timothée. C'est un appel pour lui à ralentir dans sa lecture, à ralentir dans son ministère et à méditer. Parce que Paul est convaincu d'une chose, c'est que si Timothée prend le temps devant Dieu de méditer ses paroles parce qu'elles sont inspirées par le Saint-Esprit, Timothée sera restauré, sera fortifié dans la grâce. Et Paul est tout à fait conscient de cela. C'est pour ça qu'il veut que Timothée prenne du temps dans la parole. Et comme je le disais tout à l'heure, où est la grâce, c'est la nourriture pour notre foi. Le frigo, pour Timothée, c'est la lettre de Paul, c'est là qu'il va la trouver. Pour nous, ce sont les Écritures en entier. Et c'était le cas aussi pour Timothée, bien entendu. Et Paul, tout à fait conscient de cela, dit que ces paroles ont besoin d'être méditées encore et encore pour que la grâce porte son fruit en lui, pour qu'il ait le courage de faire face dans son ministère, pour qu'il ait des pensées qui soient toujours en permanence enracinées dans l'Évangile, pour que son engagement soit intègre. La nature des changements prend du temps et nous avons besoin de ralentir, 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 encore et encore, pour laisser la grâce, au travers de la parole de Dieu, porter son fruit en nous. Cette réflexion sur son ministère que Timothée devra opérer avec les Écritures a pour but de le décentrer de lui-même, de le décentrer de ses craintes, de le décentrer de son encouragement, de le soigner, de lui faire du bien, de le restaurer pour qu'il puisse repartir dans la course et persévérer comme un soldat, comme un athlète, comme un cultivateur et transmettre à des futures générations et croire que l'Évangile est puissant. Mais avant, il doit en faire l'expérience. La faisons-nous. La faisons-nous. Est-ce que les fruits de la grâce sont visibles dans notre vie? Est-ce qu'ils nous ont restaurés vis-à-vis des relations passées, peut-être brisées dans l'Église? Est-ce que la grâce nous a restaurés dans l'ordre des priorités que nous devons avoir dans notre vie pour que nous nous engagions au service de Christ? C'est une lettre entre deux hommes. Elle aurait pu rester privée. Mais Dieu a voulu que chacun de ses enfants puisse la lire et se l'approprier dans les responsabilités qui lui sont confiées et dans l'appel qui est donné à tous de vivre pour celui qui nous a sauvés. Alors que cet enseignement de l'apôtre Paul porte du fruit dans nos vies. Amen.